La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, en Jésus, le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à vous toutes et tous ici dans ce lieu ce matin. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent par le biais d'Internet. Nous sommes ensemble dans la communion fraternelle ce matin, à l'écoute d'une parole qui nous vient de loin, à l'écoute d'une parole capable de nous élever, capable de nous rendre peut-être meilleurs dans ce monde. Que toutes et tous vous soyez bienvenus ici, et si c'est la première fois que vous êtes dans ce lieu, vous pourrez y revenir quand vous voudrez. Cette maison est une maison ouverte. Je vous invite à louer le Seigneur et nous allons rentrer dans ce temps de culte avec le premier répond que vous trouvez au début des psautiers français. Bénissons Dieu, le seul Seigneur. Partageons le psaume de reconnaissance. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel. Terre entière, servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance. Dans ses parvis avec la louange, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa bienveillance dure à toujours, sa fidélité dure de génération en génération. Je vous invite à chanter ensemble notre louange avec le psaume 81, les strophes 1, 2 et 3 dans les psautiers. Je vous invite à vous asseoir. Écoutons la volonté de Dieu pour nous, à travers les mots de l'évangile de Thomas, qui dit à ses disciples, Jésus dit à ses disciples dans cet évangile, une toute petite phrase que je vous laisserai méditer. Soyez passants. nous nous présentons devant Dieu avec ce logion, ces paroles de Jésus dans le même évangile de Thomas. Ses disciples l'interrogeaient ainsi: faut-il jeûner? Comment prier? Comment faire l'aumône? Que faut-il observer en matière de nourriture? Jésus disait: arrêtez le mensonge. Ce que vous n'aimez pas, ne le faites pas. Vous êtes nus devant le ciel. Ce que vous cachez, ce qui est voilé, tout sera découvert. Éternel, par cet évangile qui nous annonce notre nudité devant Dieu, garde-nous de l'hypocrisie qui se cache sous la piété. Apprends-nous à vivre l'extérieur comme nous vivons notre conversion intérieure. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la grâce renouvelée sur notre vie. Voici ce que dit Jésus: l'Esprit m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Et Jésus ajoute: aujourd'hui, cette parole, quand vous l'entendez, elle est accomplie. Qu'ainsi toutes celles et ceux qui se sentent pauvres dans leur cœur se réjouissent de la bonne nouvelle, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que toutes celles et ceux qui se reconnaissent aveugles reçoivent l'assurance que Dieu vient ouvrir leurs yeux. Que toutes celles et ceux qui se sentent captifs sentent leurs chaînes tomber par la force de la parole de Dieu. Car aujourd'hui, cette parole est accomplie pour toutes celles et ceux qui l'entendent. Confessons ensemble notre foi. Aujourd'hui, nous croyons en toi, source de vie, qui enfante le monde et te manifeste de diverses manières au cœur de nos expériences de femmes, d'hommes et d'enfants. Aujourd'hui, nous croyons en toi, parole de vie, qui te dit dans nos quêtes de sens, nos recherches spirituelles, nos remises en question et dans les non-savoirs qui habitent les femmes, les hommes et les enfants. Aujourd'hui, nous croyons en toi, effusion de vie, qui épouse nos désirs de mutualité, de réciprocité, de communion dans nos engagements de femmes, d'hommes et d'enfants. Aujourd'hui, nous croyons en toi qui suscite une ecclésia où femmes, hommes et enfants reçoivent, vivent et célèbrent librement leur foi. Aujourd'hui, nous croyons en toi qui accueille le don suprême de chaque femme, chaque homme et chaque enfant dans la plénitude de ta vie. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Ce matin, un peu exceptionnellement, nous prendrons dans un évangile que nous n'avons pas dans nos Bibles canoniques. C'est l'évangile de Thomas, un évangile passionnant à plus d'un titre, car il nous relate les paroles de Jésus et constitue un véritable socle pour la tradition de ces logias, de ces paroles qui circulent dans les autres évangiles. Dans le Logion 22 et le Logion 114, il est écrit « Jésus vit des petits qui étaient au sein ». Il dit à ses disciples « Ces petits qui têtent sont semblables à ceux qui entrent dans le royaume ». Ils lui dirent « Alors en devenant petits, nous entrerons dans le royaume ». Jésus leur dit « Lorsque vous ferez le 2-1, lorsque vous unifierez le 2, et que vous ferez l'intérieur comme l'extérieur comme l'intérieur, le haut comme le bas, lorsque vous ferez du masculin et du féminin un unique, afin que le masculin ne soit pas mâle et que le féminin ne soit pas femelle, alors vous aurez des yeux dans vos yeux, alors vous entrerez dans le royaume. » Et dans ce deuxième logion que j'ai choisi pour vous, le 114, Simon-Pierre disait à Jésus « Que Marie sorte de parmi nous, parce que les femmes ne sont pas dignes de la vie avec un grand V dans l'évangile de Thomas. » Jésus répondit « Voici que je la guiderai afin de la faire homme avec un grand H. Elle deviendra, elle aussi, un souffle vivant semblable à vous, homme. Toute femme qui se fera homme avec un grand H entrera dans le royaume de Dieu. » Je vous invite à chanter le cantique 170 dans les recueils louanges et prières. Je vous invite à la prière. Éternel, bénis notre lecture, bénis notre écoute. Ouvre-nous à ces paroles et permets que nous puissions entendre le témoignage de ceux qui ont cru avant nous. Que leur témoignage, vivant il y a tant de temps, devienne vivant pour nous et que nous puissions à notre tour être porteurs d'évangile. Amen. Dans l'évangile de Thomas, les polarités féminin et masculin peuvent être intégrées dans un homme avec un grand H, un homme total en quelque sorte, dans une humanité unifiée, harmonisée. Les mots nous manquent pour dire dans notre langue cet homme total que la traduction de l'évangile de Thomas a marqué avec un grand H. Le grec dirait « anthropos », mais le manuscrit de l'évangile de Thomas, retrouvé en 1945 à Nag Hammadi, en Haute-Égypte, dans des amphores destinées au vin doux, est écrit en copte. Alors comment parler de cette humanité dans laquelle le masculin et le féminin se complètent pour faire un corps simple, entier, sans cette division de genre qui sépare biologiquement et beaucoup socialement, ce qui unifie l'âme. Théodore Monod parlait d'hominisation pour parler des progrès de l'être humain. Il en parlait plutôt en relation avec la différence avec la bestialité. Et cet être humain encore à faire, encore à parfaire, encore à découvrir, il en parlait de cette façon en disant qu'il attendait cette hominisation pour devenir pleinement humain, homme avec un grand H. Mais les progrès demandent parfois un temps infini. Et celui concernant l'égalité entre les hommes et les femmes, entre cette reconnaissance de ces deux pôles en l'être humain, se fait encore attendre dans bien des lieux sur notre planète et dans bien des secteurs où le problème ne devrait pas se poser, comme par exemple celui des convictions religieuses. On ne voit pas très bien ce que la question de savoir si on est une femme ou un homme vient faire dans ces questions. Comment penser que la foi et la vocation à témoigner puissent révéler une différence de genre? Pourtant, c'est ce qui a prévalu, même au cœur d'une réforme protestante qui annonçait la fin du cléricalisme et qui comptait sur les femmes pour enseigner à leurs enfants les trésors de la Bible. Les paroles d'évangile que nous entendons ce matin sont des paroles exclues du canon biblique. Elles sont pourtant, sans doute, d'après plusieurs thèses de chercheurs, un évangile qui est contemporain des évangiles synoptiques, de ceux que nous avons dans la Bible, et sans doute encore plus originelles, ces paroles qu'il y a dans l'évangile de Thomas. Ces paroles remontent vraisemblablement aux traditions orales de la communauté de Jérusalem, ce premier cercle dans les années 50 de notre ère, autour de Jacques le Juste, frère de Jésus. Mais le caractère mystique d'un tel document lui a valu l'exclusion d'un canon constitué sur les principes d'antiquité, d'apostolicité, d'universalité et d'orthodoxie. L'évangile de Thomas a, de ce point de vue, tout pour déranger. Et il sera vite relégué parmi les écrits mystiques qu'on a appelés sarcastiquement la gnose, c'est-à-dire les écrits de ceux qui se vantent d'être des détenteurs de la connaissance. Il faut dire que dans cet évangile, comme dans une théologie du process avant l'heure, le ou la croyante est invité à devenir Christ grâce au divin qui est en lui ou en elle, une des figures christiques dans le monde contemporain. Dans ce texte, pas de miracle, pas d'acte de puissance, pas de surnaturel, mais des enseignements à l'état brut, des verbatimes de l'enseignement de Jésus qui ont de quoi éclairer toute une spiritualité libre et indépendante de quelque autorité autre que celle de la foi seule. L'autre trait troublant de l'évangile de Thomas est ce soutien sans faille que reçoivent les femmes qui croient et partagent avec les autres disciples l'héritage du Maître Jésus. Thomas, surnommé Didyme, ce qui veut dire le jumeau, encore appelé Jude dans cet évangile, et sans doute lui aussi dans la famille proche de Jésus, peut-être un autre frère, raconte comment Jésus défend une certaine Marie, dont nous ne savons pas vraiment qui elle est. Sa mère, c'est peu probable. Marie de Magdala ou Marie Salomé, dont il est aussi question dans le même évangile un peu ailleurs. Déjà, dès les origines du débat sur la légitimité des disciples de Jésus, Pierre est remis à sa place parce qu'il ne veut pas partager la bonne nouvelle et sa vocation d'apôtre avec Marie, à qui il ne reconnaît pas la dignité des enfants de Dieu. Jésus répond alors : « Voici que je la guiderai afin de la faire homme. Elle deviendra elle aussi un souffle vivant semblable à vous, homme. Toute femme qui se fera homme entrera dans le royaume de Dieu. » Évidemment, il n'est pas question des mâles ici, il est question de l'humanité. Faut-il que les femmes deviennent mâles pour être des apôtres légitimes? Évidemment, non. Il s'agit plutôt de devenir un, d'être unifié, de façon à ce que, comme un enfant au sein maternel, dont parle aussi l'évangile de Thomas, il n'y ait en elle, en cette Marie apôtre, aucune dualité, aucune division qui ne soit ramenée à l'unicité de la foi sincère. Heureux les simples en esprit, disent les béatitudes. Ce corps simple, vers lequel doivent tendre l'esprit, le cœur, l'âme, le corps du croyant. C'est ce qu'annonce cet évangile apocryphe où hommes et femmes tendent vers l'image de Dieu. De là à imaginer que la première communauté familiale autour de Jésus ne voyait aucune objection pour le ministère apostolique des femmes, il n'y a qu'un pas. Pourtant, entre la rédaction de ce texte et le ministère féminin, il y a une très longue route. Bien sûr, il y eut des femmes qui comptèrent pour la propagation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et même autour de l'apôtre Paul, dont on a tellement mis en avant la misogynie. Chantal Régnier, dans son livre « Les femmes de Saint-Paul », collaboratrice de l'apôtre des Nations, montre comment les femmes collaboraient étroitement avec Paul sur les routes commerciales, et véhiculait la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Elle explique qu'autour de Paul, il y a des femmes mariées dont on cite le nom avant de citer le nom de leur mari, ce qui n'est pas l'usage ordinairement. Prisca, l'épouse d'Aquila, Julia, l'épouse de Philologue, Junia, l'épouse d'Andronikos. Il y a aussi des veuves comme la mère de Rufus. Il y a des célibataires, la sœur de Néré, des sœurs Tryphène et Tryphose. Le premier cercle des partenaires de Paul est constitué de Phoebé, qui travaille dans l'import-export, Prisca, qui a un atelier à Corinthe, Lydie, la marchande de pourpre. Comme Jésus, Paul est accompagné par un groupe de femmes qui ont engagé leur vie dans l'annonce de l'Évangile et facilitent la mission de Paul en se mettant en danger comme lui. Prisca, qui fabrique et vend des tentes, enseigne à l'intellectuel Apollos et très vite son engagement lui vaut d'échapper de peu à la décapitation. Ailleurs, Paul dit de Junia qu'elle a combattu pour l'Évangile. Après la mort de Paul, ses disciples n'auront plus la même vision égalitaire des femmes. Et dans les lettres écrites ensuite, comme la première épître à Timothée, les femmes seront réduites au silence. Pendant l'instruction, la femme doit garder le silence en toute soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de dominer l'homme. Qu'elle se tienne donc en silence. Voilà ce qu'on trouve dans la première lettre à Timothée au chapitre 2. Plus tard, les manuscrits seront même falsifiés parfois. Et les femmes, un peu trop présentes dans les textes, changent de genre sous la plume des copistes, comme Junia, dont le prénom est masculinisé en Junias. On ne recule devant rien pour remettre les femmes à ce qu'on estime être leur place. Et on peut se demander à juste titre de quelle époque date le verset de la première lettre aux Corinthiens et pourquoi il est si rude. Ce verset dans lequel on entend, comme une porte qui claque pour fermer l'accès au ministère féminin, que les femmes se taisent dans les assemblées, elles n'ont pas la permission de parler. Elles doivent rester soumises, comme dit aussi la loi. Est-ce que les successeurs de Paul, gênés par la présence des femmes dans les communautés chrétiennes, auraient cherché à justifier l'éviction de ces dernières de toute parole d'enseignement ? Si, comme le montrent les études récentes des évangiles et des lettres de Paul, Jésus et Paul après lui ont fait une telle place aux femmes et les ont traitées d'égal à égal avec les hommes dans les premiers temps de l'aventure chrétienne, pourquoi la peur l'a-t-elle emportée sur la fidélité au Maître ? Car à en croire l'acharnement que certains exercent à prouver l'impossibilité d'un ministère féminin égal à un ministère masculin, il devrait y avoir un enjeu très important à interdire par toutes sortes d'arguments cet accès au ministère. Pourquoi y mettre tant de force ? Dans son excellent livre « Les pionnières », Lauriane Savoie cite les arguments les plus décomplexés à l'encontre du ministère pastoral féminin. La femme sera sauvée en devenant mère. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que si la maternité n'est pas une condition du salut, elle n'est pourtant pas sans rapport avec le salut. Elle est en connexion étroite avec lui. Si la femme veut être sauvée, elle ne peut l'être qu'à travers sa féminité et non pas comme un être asexué ou virilisé. Elle ne peut s'accomplir elle-même, comme on dit aujourd'hui, qu'en remplissant son rôle de gardienne du foyer et de mère de famille, et non pas en s'émancipant ou en s'agitant, en jouant la suffragette ou en voulant sans nécessité exercer une profession. Elle n'a pas à chercher son bonheur en dehors de la fonction que la nature lui a assignée, ni par conséquent à se dérober aux devoirs et aux privilèges de la maternité. Ce serait vouloir enjamber son ombre. On doit cette prose à un pasteur réformé du canton de Vaud, Roger Barillet. Je le nomme pour pas qu'il y ait de doute et que vous n'alliez pas en chercher d'autres qui auraient pu dire ça. Ces mots ne datent pas de l'Antiquité. Ces mots datent de 1967. Même si cet argument biologique semble ne représenter aucun intérêt, il est important de noter les deux qualificatifs qui sont employés et qui révèlent une certaine crainte chez l'auteur. Il parle d'être asexué ou virilisé pour parler des femmes qui ont une indépendance et un métier et ne se réduisent pas au rôle de mère, comme si le sexe féminin n'existait que lorsqu'il sert à enfanter et qu'il présentait un risque pour les hommes en devenant lui-même viril. Cette crainte de la concurrence n'est pas nouvelle. Dans l'évangile de Marie, un autre évangile apocryphe, Pierre s'en prend à Marie, qui lui raconte comment elle atteint la paix intérieure et l'éternité dans le silence, comme elle prétend que Jésus lui a enseigné à prier. Pierre s'agace et dit « Devons-nous changer nos habitudes et écouter tous cette femme ? L'a-t-il préférée à nous ?» Il a déjà peur de ne pas être le petit préféré. Alors Marie pleura et dit à Pierre « Mon frère Pierre, qu'as-tu donc dans la tête ? Crois-tu que j'ai inventé cela de moi-même, dans mon imagination, ou que je mente à propos du Sauveur ?» Lévi répondit et dit à Pierre « Pierre, tu as toujours été emporté. Maintenant, je te vois t'acharner sur la femme comme le font les adversaires. Puisque le Sauveur l'a jugée digne, qui es-tu donc pour la rejeter ? Assurément, le Sauveur la connaît très bien. Voilà pourquoi il l'a aimée plus que nous. Plutôt, ayons honte. Et revêtus de l'homme parfait, partons comme il l'a demandé. Et proclamons l'évangile sans chercher à établir d'autres lois en dehors de ce que le Seigneur a dit. Heureusement, à la suite de ses disciples qui défendirent la dignité des femmes à annoncer l'évangile, d'autres voix se sont élevées pour souhaiter une égalité pleine et entière des hommes et des femmes dans le ministère pastoral, avec l'idée que cet homme parfait dont parle l'évangile de Thomas et l'évangile de Marie, trouvait une de ses réalisations dans une égalité pastorale. Le théologien Georges Casalis, que cite Lauriane Savoie dans son livre, écrit « Une lecture attentive de l'Écriture dans notre temps devrait par conséquent nous amener à souhaiter que notre Église devienne des sociétés où, de façon exemplaire, l'homme et la femme soient engagés de façon responsable, en pleine réciprocité, dans la conscience lucide de leurs limites, de leurs différences complémentaires, pour la manifestation d'une humanité complète qui soit à la gloire du Créateur et Seigneur. » Le ministère pastoral féminin, aujourd'hui admis dans nos églises réformées, reste toutefois, toujours un sujet de discussion dans bien des endroits et même parfois dans notre Église. Il faut quand même admettre que c'est plutôt un métier d'homme. Et ce faisant, leur présence éveille la question du pouvoir et de la légitimité là où seules les questions de foi et de compétence devraient se poser. Alors, si comme le dit l'évangile de Thomas, toute femme qui se fera homme avec un grand H entrera dans le royaume de Dieu, il convient de se demander à quel ministère nous sommes appelés à la suite du Christ. Le ministère viril de Pierre, qui veut prendre le pouvoir, ou celui de Marie, que Jésus guida afin de la faire homme avec un grand H. Amen. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 214, les strophes 1, 2 et 3 dans les louanges et prières. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons partager maintenant des annonces et c'est Aurore, notre présidente du Conseil presbytéral, qui partage avec nous ces annonces.
Bonjour à tous. J'appelle également mon homologue de l'entraide, Gilles Deveau, auprès de moi, puisqu'aujourd'hui, c'est jour d'offrande de l'entraide. Ouais, ouais. Nous allons en parler tout à l'heure. Merci à tous d'être là. Merci à Lauriane Savoie d'être parmi nous ce matin. Elle était hier au Festival protestant du livre, dans une table ronde sur le féminisme. Donc vous avez compris l'introduction, plus qu'une introduction, je te remercie pour ta prédication. Mais donc Lauriane Savoie nous présente avec Béatrice Cléromazir, juste après le culte, son dernier ouvrage sur les pionnières, ou comment les femmes sont devenues pasteurs. Et c'est vraiment passionnant, donc restez juste après le culte. Nous mettrons comme d'habitude les deux fauteuils ici, ça sera aussi en direct sur internet, et restez écouter cette histoire de pionnière.
Oui, c'est, vous découvrirez d'autres perles.
Et c'est important parce que c'est aussi l'histoire du protestantisme. Donc merci à vous. Juste après, vous avez Agnès Adeline Schaeffer qui va revenir de la rencontre. Elle est en train de prêcher ce matin à la rencontre. Pour les paroles d'amour, c'est la rentrée des paroles d'amour cet après-midi, oui. Sur le thème
de la naissance et l'origine.
Ça sera la vie pas à pas cette année. Et donc, très logiquement, vous commencez par la naissance et l'origine. Donc, ça sera...
On aurait pu commencer par la résurrection. Tu me fais penser à quelque chose, là.
Oui, on y pensera l'année prochaine. Donc, toute l'après-midi, vous restez avec nous. Voilà, c'est le principe. S'il vous plaît, vous restez avec nous. Également, à savoir, cette semaine, nous avons le groupe des jeunes, et vous comprendrez le rôle de l'entraide tout à l'heure. Nous avons également jeudi la pause spirituelle avec Agnès Adeline Schaeffer. Samedi, le goûter de l'entraide, et Gilles va à nouveau vous en parler, mais je voudrais aussi vous signaler dimanche prochain, parce que nous avons l'association de l'entraide à l'Oratoire du Louvre, nous avons aussi une association qui s'appelle l'association du cœur de l'oratoire, et c'est la rentrée du cœur dimanche prochain. Alors je ne vais pas appeler mon homologue Christina Brieba, qui doit être là-haut, je pense, elle est là. Donc dimanche prochain, le cœur fait sa rentrée, et alors nous avons beaucoup réfléchi, parce que nous cherchons à vous faire chanter
le mieux possible.
Ah. Le mieux possible. Donc on a essayé depuis des années des formules de venez chanter le samedi, etc. Puis ça ne marche pas. Voilà, c'est compliqué de vous déplacer le samedi. Alors le chœur a accepté quelque chose. Eux, ils viennent répéter le dimanche matin très tôt. Mais à 10h, au moment où on va ouvrir les portes, le chœur a accepté de redescendre de la tribune pour venir là, dans le chœur. C'est une histoire de chœur. Donc s'il vous plaît, dimanche prochain, vous arrivez dès 10h pour vous mettre dans le chœur avec le chœur et répéter les cantiques de dimanche prochain. Voilà, on ne peut pas faire plus simple, je pense, pour que les paroissiens viennent répéter les cantiques qu'on chantera donc une demi-heure plus tard. Donc 10h, soyez tous dimanche prochain derrière la porte. J'espère que Gérard, que je salue, sera rétabli parce qu'il n'était pas très bien ce matin. Donc vous êtes à 10h du matin derrière la porte. On vous ouvre, le chœur est déjà là, vous les rejoignez sans aucune timidité, s'il vous plaît. Également une autre nouvelle auprès des femmes, qui sera le dimanche 15 octobre. Alors là, on va en avoir deux en chair. On a Ingrid Pratt.
Oui.
Et,
Agnès
Daudet. Parce qu'il y a Emeline et Agnès Daudet,
voilà,
qui viendront prêcher le 15 octobre ici. Donc vous aurez aussi deux femmes le dimanche 15 octobre.
Et qui ont la coutume de prêcher ensemble dans leur région, là, au nord de Montpellier. Et donc, elles travaillent déjà ensemble régulièrement et elles ont eu envie de partager ce travail commun avec nous.
Voilà. Donc, vous restez après nous, juste après le culte et toute la journée. Et puis, vous aurez encore quelques femmes dans les années à venir à l'Oratoire du Louvre, vous l'avez compris, mais aussi dans nos invités. Je passe la parole à Gilles, qui va vous expliquer, puisque aujourd'hui, comme tous les premiers dimanches du mois, une quête pour l'entraide au profit de l'association de l'entraide. Donc je passe la parole à Gilles, parce qu'ils sont très précieux auprès de nous et de nos paroissiens. Merci à vous.
Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, je reviens sur l'annonce faite par Aurore de le rendez-vous du mercredi 4 octobre pour les étudiants et jeunes actifs, puisque les jeunes vont se retrouver sur le thème de l'identité autour d'Agnès, et l'entraide intervient pour leur assurer un bon repas cette soirée-là. Hein. Donc une des premières actions qui sera faite dans la semaine. Et puis le deuxième rendez-vous à vous annoncer, c'est de vous rappeler la reprise du goûter convivial. Donc là, vous serez accueillis par Dorothée et Laurent. Ça se passe à salle Roberti, à la maison presbytérale, à partir de 15h. Donc n'hésitez pas à venir pour passer un moment sympathique. Ensuite, a priori, il y a après un... Ah non, pardon. Ok. Oui, effectivement, il y aura un concert après à 18h, c'est ça que j'allais vous dire. Mais donc, en tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre au goûter convivial. Alors, deux petites choses encore à vous dire. Donc, je profite de la présence de notre amie Denise Brigou, qui est ici, si tu veux bien juste te lever, qu'on t'identifie. Donc, je rappelle la demande de Denise, donc, qui reçoit et qui s'occupe de personnes en difficulté et qui a bien besoin de produits d'hygiène corporelle et de soins, hein, pour aider donc tous ces gens. Donc n'hésitez pas à nous amener des produits d'hygiène, quel que soit le format, et puis à les déposer donc quand vous venez au culte sur la première chapelle qui est à votre gauche en entrant. Donc ce sera récupéré et remis à l'association de Denise. Donc encore merci pour votre générosité et pour l'association de Denise. Et puis dernière chose, donc la collecte dans quelques instants, justement donc pour les actions de l'entraide. Donc, on va passer avec les diacres pour la faire. Donc, si vous avez, si vous nous donnez des chèques, pensez bien à les libeller au profit de l'entraide. Sinon, effectivement, on peut pas les encaisser. Voilà. Et merci d'avance et bon dimanche à tous.
Merci. Je vous invite à la prière. Éternel, nous te prions pour notre monde, souvent divisé et apportant son lot quotidien de discrimination, pas seulement en matière de genre. On est toujours l'étranger de l'autre, l'exclu de l'autre, le différent de l'autre, le gêneur de l'autre. Permet que nos institutions puisse garantir la place de chacun pleine et entière, et que la liberté des hommes et des femmes de notre temps, dans notre pays, puisse toujours être garantie par ces institutions et ce droit. Éternel, permet que nous soyons de ceux qui militent pour ces institutions justes et que nous prenions notre part de responsabilité là où nous pouvons décider. Éternel, nous te prions pour toutes ces femmes qui, dans d'autres pays, n'ont pas voix au chapitre, pas seulement en matière de religion, mais dans tous les autres secteurs où leur humanité est niée, réduite à des humains de seconde zone, réduite parfois à l'esclavage et à la soumission de quelques-uns, quelques-unes aussi, qui décident pour elles toutes. Permet que nous ne fermions pas les yeux en nous disant que ce n'est plus notre combat, car ce combat a été mené sans cesse et il faut maintenant aider ceux pour qui il est encore à faire. Nous te prions, Éternel, pour nos enfants, pour l'éducation que nous leur donnons, pour l'exemple que nous leur montrons, pour le respect que nous pouvons insuffler dans leur cœur quand ils considèrent l'autre. Permet que nos paroles, notre foi, notre implication pour l'Évangile soient toujours ce qui leur permette de grandir en regardant l'autre avec ce même respect que tu avais pour tous ceux que tu as rencontrés, Éternel, à travers le Christ. Éternel, nous te prions pour toutes celles et ceux qui aujourd'hui sont dans des conditions de vie tellement précaires dans notre pays, qu'ils n'ont plus de place, même sur nos trottoirs. On les déplace, on les cache, on cherche à les évacuer, à les exiler à nouveau ailleurs. On les laisse mourir dans nos mers. Permet, Éternel, que nous soyons là pour protester pour tous ces êtres humains, ces petites filles, ces petits garçons qui dorment la nuit sur les trottoirs de Paris, cachés dans une porte cochère, au pied d'un centre d'action sociale qui n'a plus les moyens de les accueillir, dans les bidonvilles du nord de Paris, dans ces tentes au bord des aéroports, le long des voies du RER, partout où nous voyons ces tentes plantées comme des signaux pour nous. Pensons qu'il y a dedans des petites filles et des petits garçons qui vont grandir comme ça. Et rappelons-nous qu'ils sont notre propre chair, comme nous dit la Bible, et que nous ne pouvons pas nous détourner d'eux. Alors, Éternel, aide-nous à les aider et que nos associations qui les aident, la CIMAD, le CASP et toutes les autres dans le protestantisme et ailleurs, soient soutenues par chacun. Car c'est avec le soutien de tous que tous seront à l'abri, en sécurité, auront accès à l'école et n'auront plus peur et ensemble nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous voici au terme d'une halte que nous avons vécue ensemble à l'écoute d'une parole. Que cette parole résonne en chacun et que le monde en soit nourri. Allez porter l'évangile, que vous soyez homme, femme, que vous sentiez que vous avez en vous ces deux pôles unifiés, enfin, dans la parole de Dieu. Allez dire qu'il existe un monde où l'on peut être frère et sœur, où l'on peut s'aimer les uns les autres. Et ce monde, c'est à nous de le construire. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur, de toute grâce, vous bénit et vous garde. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, vous pouvez évidemment vaquer à vos occupations, mais il y a vraiment quelque chose de très bien qui se passe maintenant, c'est qu'on accueille Lauriane Savoie, qui vient nous parler de son livre « Les pionnières », et vous verrez que l'histoire de ces pionnières, de ces femmes qui ont voulu accéder au ministère pastoral, comme leurs frères les hommes, ont eu fort à faire, mais en même temps aussi des aides. Et je crois qu'il faut regarder comment tout cela s'est tissé petit à petit, et comment ce ministère pastoral a tout d'un coup émergé comme quelque chose qu'il fallait instituer. Et donc je vous invite à rester pour entendre cette histoire extraordinaire. Merci beaucoup. Et le livre est en vente à la librairie aussi, avec Vito qui vous accueille, avec Charbel. Et donc vous allez trouver ce livre que nous avons fait venir de chez l'éditeur Labor et Fides.
Sarah, tu peux envoyer, bien entendu, hein.